Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
En cette fin du 19e siècle, la révolution industrielle bat son plein. Le charbon et l'acier doivent être toujours plus et toujours plus vite extraits et forgés. Les besoins sont immenses. Et pour cela, il faut une main-d'œuvre considérable. Les conditions de la classe ouvrière sont difficiles et les idées de protection et de justice sociale sont balbutiantes. Parfois, la colère sort de son lit et le sang coule. Dans son dernier roman, intitulé 1886, Pascal Dessin ausculte un fait divers, la mort d'un homme. Mais ce meurtre a aussi des causes sociales et il aura des conséquences politiques. Bonjour Pascal Dessin.
Bonjour.
Nous avions eu le plaisir des aventures d'un lutteur du Lauragais dans un colosse, un livre dont vous étiez venu nous parler à l'antenne de Radio Présence. Il s'agissait d'un destin singulier d'un lutteur de foire. Et dans ce nouveau livre, 1886, les faits relatés sont aux environs de la même époque. Nous sommes en 1886. Alors vous allez nous dire un peu où nous sommes et qui sont les protagonistes de cette journée fatidique sur laquelle vous vous êtes penché, celle du 26 janvier 1886.
Une journée sinistre même.
Journée sinistre. Et quand on regarde sur la couverture de votre livre, on y voit un homme qui tombe, poussé, sur une foule. Alors là, c'est une couverture très rouge. Il y a de la colère. Il va y avoir du sang. Il y a du sang. Voilà. Alors, où sommes-nous? Que se passe-t-il?
Bah, on est en 1886, un mois de janvier, où il fait un froid de loup. C'est la France à froid, il neige à Paris. C'est encore une époque où l'hiver, on a de la neige un peu partout. Et encore plus, donc, dans un territoire un peu montagneux, on va dire, sans être montagnard. C'est l'Aveyron, vous connaissez, c'est la région de Casseville. Ce n'est pas encore le bassin industriel que l'on connaîtra. Là, on va dire que la mine est encore jeune, mais petit à petit, elle dévore le paysage. Ça, c'est pour planter le décor, qu'on pourra peut-être détailler tout à l'heure, parce qu'il y a des aspects quand même intéressants à ce décor, parce que c'est un bassin industriel houillé et qui est vraiment singulier par rapport à tous les autres bassins industriels de la France à cette époque. Donc c'est important de le souligner. Et les personnages, les premiers personnages, ce sont les ouvriers, ceux que vous mentionnez, qui sont au labeur, qui sont à la souffrance, et qui à un moment sont maltraités. Et alors, on est forcément toujours trop maltraité, mais à un moment donné, ça va trop loin. Les brimades, les renvois d'ouvriers de la compagnie, des houillères de l'Aveyron, donc la morgue et peut-être le cynisme du sous-directeur, qui est quand même la main armée du directeur, qui est lui-même la main armée de la grande direction qui se trouve à Paris. Le contexte n'est pas favorable, et à un moment donné, les ouvriers se révoltent pas vraiment au début. Ils veulent simplement exposer leurs revendications. Elles sont simples. On trouve les mêmes dans le roman de Zola, Germinal. C'est-à-dire, c'est le prix du wagonnet de charbon gros ou fin. C'est le boisage. C'est la durée du temps de travail. Ce qui ajoute peut-être par rapport à Germinal, c'est que parmi les 10 revendications au départ, il y a la réintégration des ouvriers qui ont été chassés par la compagnie pendant les anciennes grèves.
Voilà, c'est une histoire un peu qui se prolonge.
Exactement.
À travers les événements ouvriers depuis 1850.
Oui, le passif est dur et violent. Aubin, qui est tout à côté de Casseville, est une des mines du bassin industriel. Et c'est là qu'il y a eu la tuerie d'Aubin, 1869. Des hommes sont
donc
tombés.
La troupe
a tiré sur les ouvriers. Une femme est morte, un enfant. Il y a eu beaucoup de blessés, dont certains ne se sont pas remis. Ça a été un vrai traumatisme et qui a marqué les esprits déjà à l'époque, Zola s'en est beaucoup inspiré pour une des scènes de son Germinal. Et puis Victor Hugo a écrit un poème fabuleux qui s'appelle Au bain. Donc on est dans ce contexte-là.
Les gens ont ça à l'esprit. Quand on est en janvier 1886,
c'est inévitable.
Les sabots sont sur la route, des centaines d'ouvriers arrivent. Donc il y a cette scène inaugurale et cette journée que vous décrivez avec un tel souffle. Ça commence tout doucement. Ouais. Ça commence.
Il fallait commencer d'une manière, aussi violente, je dirais, aussi violente que l'action qui allait suivre ce départ, parce que tous ces gens. Alors au début, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais il faut savoir qu'ils se sont mis à marcher. Et quand, en plein hiver, comme ça, dans le petit matin, on se met à marcher pour aller voir le directeur, c'est pas à traverser la rue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est parcourir des dizaines de kilomètres dans la colline. Alors des dizaines peut-être pas, mais de Aubin à de Cazeville à pied, il doit y avoir autour de 8-9 kilomètres peut-être. Je n'ai pas mesuré, mais c'est une longue marche quand même. Et ils ne viennent pas que d'Aubin, ils viennent de Grand-Sac, ils viennent de Firmy. Et ils arrivent sur le plateau, ce qu'on appelle le plateau à ce moment-là. Et ils vont demander au directeur, au sous-directeur Jules Vatrin, des comptes d'une certaine façon. Et ça commence à dégénérer dans son bureau.
Voilà, c'est ça. Mais en même temps, et comme ça dégénère, il y a des gens qui vont, entre guillemets, venir essayer d'apaiser les choses, à la fois des gens de la compagnie, mais aussi des gens qui sont extérieurs à la compagnie. On y reviendra, et en particulier Jules Kerrad, qui est sur les lieux du drame, au moment où le drame atteint son acmé.
Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que quelques dizaines de gens assiègent le bureau de Jules Vatrin. Ensuite, ils lui font une conduite un petit peu musclée jusqu'à la mairie, parce que pour l'instant, c'est musclé, mais fair play, on va dire. Et c'est à ce moment-là que
On essaie d'avoir des délégués, on essaie de s'organiser.
Voilà, quand on est à la mairie, oui.
On essaie de trouver des intermédiaires.
Oui, bah, des intermédiaires.
Enfin, en tout cas.
Disons qu'on essaie de faire les choses dans une certaine correction. Mmh. Il se trouve que la foule est nombreuse, de plus en plus. Il va y avoir jusqu'à 2000 personnes très en colère autour des protagonistes de cette affaire. Et ça va remuer sévèrement, quoi. Donc la mairie, c'est pour se mettre sous la plus haute autorité de la ville, qui est en effet Jules Kerrad, qui fut le premier maire républicain de Cazeville.
Alors ça, c'est une figure
C'est un homme extraordinaire. C'est le personnage du livre avec... Alors, la victime en est un, puisque tout tourne autour de lui. Mais il y a trois personnages importants du livre, c'est donc la victime, Jules Vatrin, le bourreau et la victime, je dirais, pour préciser tout de suite, Jules Kerrad, qui est le maire de Cazeville, maire républicain, on peut peut-être le dépeindre un peu plus, et puis Émile Basly, le député ouvrier, qui viendra donner de sa personne auprès des mineurs, parce qu'il les connaît bien, il est ancien mineur, pendant 3 mois, pendant la longue grève, qui va suivre donc le meurtre de Vatrin.
Alors, on pourra revenir aussi sur le portrait de chacun, parce que vous en
oui,
faites...
Oui, si vous voulez.
C'est vraiment très, très, très intéressant, mais on en reste à la foule. Donc, il y a cette foule, et puis il y a ces individualités qui essaient de maintenir les choses à flot pour que ça ne dégénère pas. Alors, c'est un peu comme dans tous les événements collectifs. Je vais vous faire peut-être un parallèle qui va vous paraître de mauvais aloi, mais j'ai vécu à ZF, peut-être comme vous, là, et quand... quelque chose se passe d'un point de vue collectif, etc. Chacun est rendu à lui-même d'une certaine manière. Il y en a qui se transcendent, voilà. Qui s'effondrent, il y en a qui fuient, il y en a qui essaient de lutter, il y en a qui laissent passer toute leur passion, la peur, la haine, la violence. Mmh. Et donc j'ai trouvé dans votre description initiale de ce qui s'est passé cette journée-là, c'est un souffle énorme, on retrouve tout ça.
Oui, il y a les sentiments les meilleurs et les plus mauvais qui se révèlent, quoi. Et puis il y en a qui en profitent. L'approche possible pour révéler toute leur nature plus ou moins agréable. Et puis les plus mauvais, on va dire, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont peu fréquentables parmi les mineurs, là. Les plus mauvais ont l'occasion de se dissimuler dans la foule. Hein, c'est un grand classique. Hein, si on veut de porter un coup, vaut mieux le porter quand on est plusieurs.
Est-ce qu'il faut les appeler des pousses au crime ?
Peut-être, oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a certains d'entre eux qui ont trouvé l'occasion d'en finir avec Vatrin. Des menaces pesaient sur lui depuis un moment. Il n'avait pas reçu des menaces claires et nettes, mais voilà, ça se murmurait dans les tavernes, on voulait la peau de Vatrin, c'est clair.
Mais lui avec fait face. On dirait qu'il ne mesure pas toute l'antipathie,
Non, parce que, alors, j'ai essayé de comprendre, j'ai rien lu qui puisse l'expliquer, mais à force quand même d'étudier cette histoire, je me suis dit qu'il y avait un problème de connaissance du pays, je pense. Il venait d'ailleurs. Donc, on abordera ce sujet de l'étranger. Une des insultes qui est lancée régulièrement dans la foule, c'est « à bas le Prussien, le Prussien au bassin ». Donc, il y a ce vieux fond. On n'est pas loin de 1871 quand même.
C'était 15 ans, ouais.
Voilà. Et lui, il vient de l'Est quand même. Hein. Alors, c'est un pur
Saint-Laurent.
Voilà, c'est un pur produit quand même de l'industrie française.
Alors, si vous permettez, vous pourriez peut-être nous faire une lecture, si vous l'acceptez.
Bien parce sûr. Que j'ai prévu les lunettes exprès pour ça. J'ai bien fait d'ailleurs. Alors c'est le chapitre 4, un petit extrait que vous avez choisi, Christophe, qui s'intitule « Quel homme ?» C'est justement, c'est un chapitre qui se trouve après donc le drame. Donc je passe sur le début et on arrive directement au sous-directeur. Le malheureux Vatrin, l'ignoble Vatrin. Que n'a-t-on dit et écrit sur cet homme ? Le portrait, un dessin d'après photographique que nous avons de lui ne montre pas un individu d'apparence désagréable, au contraire. Au regard méchant, malsain, voire vicieux, il porte bien et sobre. Ses vêtements révèlent un caractère soigneux et peut-être même délicat. Le nœud papillon, légèrement bouffant, souligne un col blanc et droit. La veste tombe parfaitement sur le gilet bien boutonné. Ses moustaches sont plus fournies que sa barbe. Ses cheveux peignés en arrière découvrent un front haut. Il a plutôt l'air bonhomme, avec des yeux qu'on dirait tirés vers le bas, qui lui donnent un air de coquin. Qui est Vatrin ? Dans la France industrielle, du nord au sud, il se crée des mines et des forges partout, tout le temps. Et naturellement, Vatrin est le fruit de cette histoire. Jean-Jules Vatrin naît à Mai, près de Metz, en 1837. La ville de Decazeville, elle, est sortie de terre un peu plus tôt, sous l'impulsion du duc Élie Decazes, qui a hérité de mines et a su aussitôt en tirer avantage. Decazeville s'est développée à partir d'un village. Les premiers actes d'état civil datent de 1835. La ville est encore jeune quand, à l'âge de 20 ans, Vatrin intègre l'école des mines de Saint-Étienne. Il terminera premier de sa promotion et ne cessera dès lors, pendant 27 ans, d'appartenir à l'industrie. D'abord attaché à la compagnie de Terre Noire, il travaille aux usines de Saint-Julien de Vienne et de Bessèges dans le Gard. Puis, pour la compagnie des forges de Châtillon-Commentry, il est chef de fabrication à l'usine Saint-Jacques. Vatrin est assurément un homme talentueux, une perle de l'industrie minérale, car on le retrouve bientôt à diriger les forges et aciéries de Munterhaus, de la société Dietrich, puis l'usine de Saint-Montant pour le compte de la compagnie Châtillon-Commentry à nouveau. Comme un marin de port en port, Vatrin navigue de forge en forge. Enfin, en 1880, il est appelé à Decazeville comme sous-directeur par la compagnie des houillères et fonderies de l'Aveyron. Vatrin a déjà une belle carrière.
Voilà un portrait, les faits. Alors, Vatrin, victime expiatoire, bouc émissaire. Après, vous dites un peu plus loin, après sa mort, grand oui. Silence, défenestration. Mais après sa mort, les langues se délient au rang supérieur. Très jaloux de ses prérogatives, assoiffé de pouvoir, ne pouvait supporter aucune initiative ni aucune indépendance. C'est un portrait tout contrasté, parce que chaque tout mort est un chic type. Enfin, voilà.
Ah, je sais pas. Attends, en tout cas, on a tous un monstre en soi. Visiblement, lui, il l'avait. Il était fort de son autorité. Je pense qu'il pouvait pas comprendre les ouvriers. Et puis, attention, il y a des raisons profondes à la haine qu'il a inspirée. Mais il n'était pas à l'avant-poste. Le bouc émissaire, c'était pas vraiment lui. Il l'était peut-être pour la compagnie, mais lui, il avait ses propres boucs émissaires en la personne d'un ingénieur ici, d'un ingénieur là. D'ailleurs, ça explique que pendant le drame, les deux ingénieurs qui l'accompagnent, à un moment donné, se carapatent. Hein. Il l'aide jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, quand le danger est trop grand, il s'enfuit. Je pense qu'un ingénieur complètement dévoué à ce sous-directeur serait resté jusqu'au bout et les choses auraient peut-être été différentes. Enfin, on peut toujours refaire l'histoire, mais j'en suis sûr. Donc, il n'avait pas inspiré beaucoup de sympathie. Et puis, il était accusé de tous les maux aussi parce qu'il y avait cette forme de racisme, je crois. Il venait de l'Est, à bas le prussien, même s'il était français, quoi, profondément français, puisqu'il était, comme le dit le passage, l'illustration même d'une éducation française.
Alors, sur malheureusement, donc il meurt, il reçoit un coup d'embarre.
Il souffre parce qu'il est assommé, il se réveille, il est étourdi, ensuite il est jeté par la fenêtre, il est piétiné, et son agonie. Alors les faits, je crois qu'il est jeté par la fenêtre entre 16h et 17h, il meurt vers minuit. Donc il a quand même une agonie longue et douloureuse.
Et comment ça se passe sur le plateau, comme on dit? Là, c'est la sidération.
Oui, c'est comme toujours, quand un drame survient, tout le monde se dit, mais qui a fait quoi? Tout le monde, oui, c'est la sidération, c'est bien le mot. Ceux qui sont sans doute les plus responsables, qui seront ensuite appréhendés, on ne sait pas s'ils ont tous été appréhendés, comment ça s'est fait, l'instruction, je ne l'ai pas menée dans le livre. C'est une autre histoire qu'il y aurait à écrire sans doute, mais j'imagine que les plus coupables se sont taillés vite fait. Et puis les autres ont traîné là en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là? Enfin, on imagine, hein, je le vois très bien. D'ailleurs, faut voir que de Casville était rempli de petites gargotes, de petits bars, de petits estaminets. On disait pas des estaminets, de petits bars, de petits cafés. Et beaucoup des gens qui ont assisté à cette tragédie se sont retrouvés dans ces endroits pour discuter, pour se demander quoi. C'est assez classique comme déroulé de drame, je dirais, quand il y a justement une colère collective incontrôlable.
Et cette mort, elle ne fait pas avancer les...
Non, mais je pense qu'avant...
les récriminations des mineurs.
Non, mais avant d'aborder cette question... Il faut comprendre quand même que pendant un long moment, il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il y a les deux ingénieurs que j'ai évoqués. Dans le bâtiment où il se réfugie, où il est piégé, il a avec lui un officier de ville, comme on dit à l'époque. Il y a le maire, il y a quelques adjoints au maire qui sont là aussi. Ça bataille sec. Hein.
Oui, parce que la discussion qui aura lieu après, qui sera à la fois politique et judiciaire, ce sera, mais que n'avez-vous empêché ces événements? Avec le maire avec son écharpe, et puis qui renvoie des gendarmes. Alors on interrogera, parce que votre livre est divisé en trois parties. Il y a le meurtre, il y a la grève, et donc en effet le meurtre n'arrange pas et fait qu'on rentre dans une grève encore plus dure, on y reviendra. Et puis il y a le procès. Voilà. Et même au moment du procès, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est...
C'est la question qu'on se posera jusqu'au bout et qui va faire...
Au-delà de juger les protagonistes,
bien sûr.
Éventuelles mises en cause.
La question des responsabilités, c'est tous coupables, quelque part. Et pour beaucoup, à savoir l'opposition à la République de l'époque, hein, donc les conservateurs, la droite réactionnaire, la question, c'est de trouver, là pour le coup, un bouc émissaire, un grand responsable. Et pour beaucoup, le responsable, c'est Kéran, le maire de Casville, qui n'est pas parvenu à protéger Jules Vatrin. En sachant que le matin, quand il reçoit tout le monde à la mairie et qu'il décline la proposition d'aide des gendarmes, Il le fait parce que lui aussi, il se rend pas compte de ce qui lui pend au nez. Comme Jules Vatrin, il peut pas imaginer qu'on va le tuer. Sinon, il irait pas. Parce qu'à un moment donné, il est question d'aller vérifier si la sécurité est bonne dans la mine. Personne ne veut qu'il y aille. Lui, il y va. Il est complètement inconscient. Et Jules Guérat, je crois qu'à un moment donné, il ne se rend pas compte. Il n'imagine pas ça d'hommes qu'il connaît bien et qui sont de bons bougres.
D'ailleurs, après, il s'adresse à eux en leur disant « mes enfants, enfin ».
Mais oui, enfin, je ne sais pas si c'est les paroles exactes qui ont été prononcées à l'époque. Mais en tout cas, il les aime. Il les connaît. Ce n'est pas des mauvais. Et puis, il y a le traumatisme de 1869. Il veut pas que l'armée intervienne, ou même la gendarmerie, ça revient au même, hein, c'est l'armée, intervienne et tire sur la populace, quoi. Il veut pas la main de sang. Donc, voilà. Et c'est ce qu'on va, le jour même, le lendemain même, ce que toute la presse réactionnaire va lui reprocher, et les politiques à la Chambre des députés, bien évidemment. Il sera, c'est un homme qu'on a oublié, dont on a oublié l'importance, mais il fut député, premier maire de Decazeville, on lui doit beaucoup à cet homme.
Il n'a jamais été ministre. Éduqué au lycée de Sorèze,
il a une culture religieuse.
Voilà. Un médecin.
Médecin des pauvres. Donc on pourrait déjà dire à ce moment-là que c'est un religieux de gauche.
Peut-être qu'il est, la doctrine sociale de l'Église, peut-être.
Exactement, puisque de toute façon, il sera député républicain et ensuite maire républicain, premier maire incontestablement républicain. Parce qu'il y a une belle chose chez lui, par exemple. Évidemment, la compagnie, au gré de la conjoncture, et puis des réprimandes qui interviennent au fil du temps, chasse des ouvriers, mais sans autre forme de procès, quoi. Et ça l'affecte énormément, parce que ce sont ces habitants, hein, qui tombe dans la misère, qui souffre, et il peut pas accepter ça. Et alors il y a une chose extraordinaire, et je comprends qu'on lui ait dressé une belle statue dans Decazeville et qu'on lui ait fait une très 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 belle tombe. Il faut aller faire un tour au cimetière de Decazeville, ça vaut le coup. Moi, je me suis promené entre les tombes, dans les vieilles tombes. Rien que d'y être, on comprend presque l'événement, quoi.
D'ailleurs, il y a un court-métrage qui est en ligne.
Oui.
Mais ça, peut-être, on en reparlera à l'heure, parce que c'est vraiment...
Oui, parce que c'est...
C'est une postface, je dirais, magnifique à votre livre. Parce
oui,
qu'on, tout
et
d'un coup,
il va avec le livre. C'est-à-dire, il met des images, il reste beaucoup... finalement de cette époque-là, aujourd'hui encore, des vocations possibles. Et Philippe Courtin, qui est réalisateur, a fait un 20 minutes sur 1886, sur mon roman donc, où on me voit aller sur les lieux du crime, les lieux du crime. Et c'est visible sur YouTube, je le recommande à vos auditeurs.
Je veux pas vous interrompre.
Parce que notre ami Kérad, il aura, parce que c'est un camarade, tous ces gens chassés par la compagnie, il va vouloir les occuper. Donc son grand projet sera de trouver des financements, et il ira à Paris pour cela, et il en profitera à cette occasion d'aller voir ses anciens amis députés devenus ministres, mais aussi le président de la compagnie des Houillères, pour essayer de discuter un peu avec lui. Ça ne sera pas possible, mais récolter de l'argent pour construire la nouvelle mairie de Decazeville, celle que l'on connaît aujourd'hui, et une école laïque, bien évidemment, pour employer les ouvriers chassés par la compagnie. C'est pas merveilleux, ça?
Ah, mais si. Écoutez, on va faire une petite pause
si vous voulez,
musicale.
Oui.
Et je vous propose une chanson de Bernard Lavilliers. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes.
Avec plaisir.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. J'voudrais travailler encore travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y'a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger
l'acier. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Nous écoutions Les Mains d'Or par Bernard Lavilliers, qui parle de la fin de la sidérurgie en Lorraine, autre terre de souffrance ouvrière.
Exactement.
Voilà, qui résonne bien avec le fait divers que nous évoquons dans votre livre, Pascal Dessin, 1886, l'affaire Jules Vatrin, qui nous emmène sur. Les pas de grandes personnalités. On vient juste à l'instant d'évoquer Jules Guérad, mais il faudrait aussi évoquer tous les gens qui ont été à l'initiative ensuite de cette grève qui va arriver, une grève qui va durer 108 jours.
La plus longue du 19e siècle.
Voilà,
mais la chanson de Lavilliers nous permet de préciser un point, parce qu'une telle violence est exacerbée par une conjoncture pénible. Et là, c'est la fin de la sidérurgie en Lorraine, dans la chanson de Lavilliers, et puis bon, c'est la crise générale de la métallurgie en France et en Europe, voilà, que l'on connaît. C'est déjà le cas à l'époque. C'est-à-dire, il y a une crise économique qui fait tomber les cours du charbon, du métal. On pense à importer d'ailleurs on est en pleine mondialisation déjà, c'est pas un concept récent. On pense déjà à importer du minerai d'Australie, vous voyez un peu au milieu du 19e quoi. Donc voilà, tout change, rien ne change.
Et oui, et on voit que le travail ouvrier en fait est un facteur purement d'adaptation, on met les gens au chômage, plus ou moins, en fonction.
Comme on dit aujourd'hui, les variables d'ajustement.
Exactement, variables d'ajustement. Et donc vous avez un homme qui est le président, je pense qu'on peut parler de Léon Say,
voilà,
qui est un banquier, a été banquier, administrateur de compagnie des chemins de fer, journaliste au Journal des débats, dont il est devenu directeur, député, préfet, président du Sénat, ambassadeur à Londres, plusieurs fois ministre des Finances, et dont la devise est « La charité a des limites, le bon placement, non ». Voilà, c'est et lui, il va avoir cette information de la mort de Vatrin qui va remonter.
Ah, il va s'arc-bouter.
À Paris voilà. Il sourit, Léon. Ça m'a fait penser à la chanson...
Bah, c'est voulu.
Mais, de Bobby Lapointe. Mais il n'y a pas Bobo, il sourit.
Voilà. Et je suis content que vous le souligniez, parce que vous êtes le premier. Et non, parce qu'on s'amuse aussi quand on écrit, même quand on raconte des sujets graves. Léon Say fait partie de la galerie de portraits, oui, dont on peut parler. Mais bon, on va laisser aux auditeurs le soin de découvrir le raffinement de cet homme dans l'histoire. Mais il faut savoir que, évidemment, moi, je me suis arrêté au moment où la grève s'arrête, en tout cas, quand on fête cette fin de grève, et puis la fin du procès aussi. Mais Léon Say a viré un peu à gauche après.
Ah bon, comme quoi, on peut se réformer.
Voilà. Donc c'était un homme quand même, alors sinon intelligent, du moins pragmatique.
D'accord. Alors cette grève, voilà, cette plus longue grève de 108 jours.
108 jours, c'est pas rien. Hein.
Il faut soutenir. Donc voilà. Il y a des souscriptions de divers journaux, de gauche, d'extrême gauche, des conseils municipaux. Paris, Lyon, alors même, je ne sais pas si... C'est dans rumeur, alors je ne sais pas si c'est appuyé sur des faits, mais
le préfet
Poubelle qui dit, bon ben... On va envoyer de l'argent.
Oui, voilà. Tout à fait.
Les 50 000 francs des traits d'union d'Angleterre, enfin, c'est à la fois national et international.
Les Belges envoient de l'argent.
Voilà,
aussi.
Les Belges, ouais. Les petits commerçants font crédit. Parce que finalement, alors oui, quand même, les petits commerçants, bon, c'est un détail, mais quand même, l'une des revendications des mineurs, c'est aussi la coopérative. Alors, parce que la coopérative, elle est. Comme ça, ça sonne vraiment de gauche. Ça sonne
complètement, oui.
Et dans le livre, vous démontez bien un peu l'idée que obliger les mineurs à aller à une coopérative qui est tenue par la compagnie, au fond...
L'idée était belle, mais c'était inventer une autre forme d'esclavage, quoi, et de dépendance au capital.
Ouais, ça participe un peu de l'énervement.
Ah bah complètement, ça... Ouais. On dit, et on ne sait jamais qui c'est, mais que le petit commerce, justement, a attisé le feu et la haine contre Vatrin. Parce que l'idée, justement, c'était de casser le commerce local, de rendre donc plus dépendant l'ouvrier de la compagnie. Et donc, finalement, vous imaginez bien, si la compagnie propose des denrées à ses ouvriers... c'est de l'argent qui tourne en circuit court et très court. Mmh. C'est-à-dire, on leur donne un paiement qui n'est pas le paiement juste, et en plus, on leur prend tout pour des denrées, voilà. Et en même temps que le commerce local périclite. Donc, c'était une situation complètement intenable. Mais pour revenir sur la solidarité, ce qui est magnifique dans cette affaire, c'est que malgré la violence des choses et le meurtre de cet homme, c'est dire. Que la question n'était pas vraiment là. Je veux dire, c'est une victime presque collatérale, Vatrin. C'est un mouvement ouvrier qui a inspiré une solidarité et un respect incroyable. Tous ceux que vous avez cités qui ont envoyé de l'argent, tous les bassins houillés qui n'étaient pas en grève ont envoyé de l'argent. C'est quand même assez extraordinaire. Et ils ont tenu 3 mois pour ça, mais pas seulement, parce que le bassin de Casville est très singulier. C'est-à-dire qu'on avait quand même des gens qui étaient mineurs, mais qui avaient gardé un petit lopin, ou qui restaient un petit peu paysans. Donc il y a une solidarité, une entraide sur le territoire qui a joué, qui a favorisé la longueur de cette grève. Et ensuite, il y a eu des partenaires, des soutiens conséquents, en la personne de journalistes.
La presse est très présente. Parce
Cri du peuple, notamment. Ouais. C'est le cri du peuple qui, à la fois, qui agite les choses, hein, qui fout le bordel, faut le dire, mais qui contrôle un peu la solidarité, qui la maintient, qui la motive. C'est assez extraordinaire.
Hein. Alors, la grève arrive à son terme le 14 juin. C'est-à-dire, voilà, les revendications.
On a oublié Émile Bassely en chemin.
Ah oui, alors, oui, si, ah ben non, c'est quand même, c'est très important, ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Oui, parce qu'il y a les...
parce que je voulais vous parler après de Zola, mais Bassely, ah. Zola, etc. Ouais, mais vas-y,
mais on peut...
Bassely, donc, député.
Député fraîchement ouvrier. Il dira aux ouvriers, je serai toujours là, si c'est pas moi, comme à la guerre, quoi, quelqu'un me remplacera.
Mineur de fond.
Alors, il a été 17 ans mineur de fond. Il est descendu à la mine vers 13 ans, par là. Et puis il s'est formé, à la politique. Et il a été un des agitateurs de la grève d'Anzin, qui a inspiré aussi Zola, la fameuse grève d'Anzin, parce qu'Anzin s'est inspiré à la fois d'Aubin et d'Anzin pour son Germinal.
Et ce serait l'Étienne Lantier.
Et il l'aurait interviewé. Il l'aurait interviewé pour construire son personnage d'Étienne Lantier. C'est tout à fait vraisemblable, hein, et c'est cohérent quand on connaît l'affaire Vatrin et Germinal qui est apparu un an avant.
Et surtout, ça paraît Vatrin. En feuilleton, vous l'écrivez, ça paraît ouais. En feuilleton. Vatrin tombe de chute et se tue le 26 janvier et le 13 février. On publie en feuilleton, dans l'Aveyron républicain, voilà. Germinal.
C'est pas de la provocation, ça. Ah oui, le livre s'était pas vendu du tout sur le territoire. Il fallait bien que les ouvriers sachent de quoi il retournait. On en parlait tant. Non, et puis bon, c'était quand même un peu ironique. Alors, Émile Bassely, fraîchement député, faut voir hein, l'ascension sociale. Hein. Cet homme, 17 ans au fond de la mine, ensuite il est viré par la compagnie d'Anzin, il se réfugie chez sa femme, il s'est formé, mais comme dans Germinal, hein, il s'est formé à la politique, et il a créé du réseau, certainement, forcément, puisqu'il est proposé à la députation en Seine-Saint-Denis. Et il devient député ouvrier parmi les plus rouges, un peu très rouge quand même, parce qu'il va s'inspirer, même dans ses harangues au gouvernement, de la dialectique du cri du peuple, qui est purement libertaire et révolutionnaire. Quoi.
Et il s'excuse de prendre une parole simple, de ne pas avoir tout l'apparat
oui,
de la prise
non,
de parole.
C'est devenu un intellectuel.
Ah oui, d'accord.
Ah bah oui, c'est devenu quelqu'un d'une hauteur d'esprit incroyable. Moi, je me suis nourri des comptes rendus de presse pour construire mes scènes, notamment la scène à la Chambre des députés. Il n'y a aucune raison que la retranscription de ces propos n'ait pas été fidèle. C'est quelqu'un qui avait du verbe et qui était un bon élève, je pense, parce que c'est troublant. Quand justement il fait son interpellation au gouvernement à la Chambre des députés, il emprunte la dialectique, c'est clair, du cri du peuple. Donc c'est quelqu'un qui sait apprendre des choses et qui construit sa pensée au fur et à mesure. C'est un autodidacte et comme tous les autodidactes, ils sont souvent brillants.
Et alors Bassely et Queyrade se connaissent, enfin, vous dites au cours de cet épisode, ils apprennent à se connaître. Et il y a un troisième, c'est Zéphirin Camélina.
Oui.
C'est pareil, il y a des anciens communards, il y a des gens qui ont été exilés en Nouvelle-Calédonie qui sont revenus.
Oui. Ben oui, c'est cette Troisième République qui est la République de la Réconciliation, après les emprisonnements, et certains très loin. Hein, son nom va m'échapper là, mais il y a un député qui sera très actif aussi, qui était communard et qui avait été au bagne de Nouvelle-Calédonie, dont il s'est enfui, vous imaginez. Il est revenu par l'Angleterre avant de devenir député sous la Troisième République. C'est des destins incroyables quand même. Hein. Et on a là des dizaines comme ça. On ne peut pas en faire l'inventaire. Mais chaque homme politique de gauche à ce moment-là, c'est un destin. Quoi. Un destin hors norme.
Donc ça, c'est le souffle politique. C'est le républicanisme. C'est la sociale, etc.
Exactement.
Mais il n'en reste pas moins qu'un homme est mort. Et qu'il faut juger les gens qui l'ont assassiné.
Et oui, un procès est inéluctable, d'autant plus que pendant que la grève dure, il y a...
Les débats, ce n'est pas très facile, en moment de grève, de faire une procédure d'instruction. Alors, c'est à Montpellier qu'on confie, si j'ai bien compris.
Oui, mais l'instruction, elle est menée surtout à Villefranche. Hein. Parce que c'est là qu'ont lieu les premiers procès, c'est là que sont emprisonnés les suspects, hein. C'est à la prison de Villefranche.
Et donc c'est les assises de Rodez.
Et ce sera les assises de Rodez pour le meurtre de Vatrin. En sachant que c'est un dossier très, très, très volumineux, 7,5 kg, si mon souvenir est bon, qu'à l'époque, il n'y a pas de photocopie. C'est très difficile de faire des copies. Les avocats, 9 avocats, pour 10 présumés coupables, dont beaucoup de députés, c'est dire... là aussi, la sympathie qu'ils ont inspirée.
Caisse de résonance politique. Ça.
Voilà, bon, parmi les avocats, il y a Millerand qui sera président de la République un jour. Il est encore jeune, mais il est déjà très brillant. Ce qui va se passer, c'est que l'instruction aura été longue, le dossier copieux et les avocats désarmés. Parce que quand ils vont arriver à Rodez 2-3 jours avant le procès.
Alors ils vont sur les lieux de Decazeville.
Voilà,
pour regarder un peu
pour
comment
certains
ça...
d'entre eux, tout ça. Mais ils n'ont pas eu le temps d'étudier le dossier. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un procès politique. Immédiatement, il est question d'élever le propos et surtout pas s'apesantir sur le pédigré de nos ouvriers parce qu'on s'aperçoit très vite que c'est la lie, quoi.
Alors, récemment, je suis allé voir Anatomie d'une chute au cinéma. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Et c'est un polar, je parle à l'auteur de polar, avec un couple, un huis clos d'un couple avec un enfant malvoyant. Et puis, l'homme tombe de là, suicide ou meurtre, voilà, mais pas de témoin. Et là, il y a l'ADN en 2023.
Oui.
Là, un homme tombe, il y a des milliers de personnes. Chacun voit un petit bout de cet événement.
Il fait noir.
Trop de témoins.
Oui.
Comment faire ? Alors là, c'est très bien fait parce que le procès, c'est petit bout par petit bout, tant de contradictions. Comment peut-on arriver à la vérité ?
On ne peut pas.
Voilà.
On ne peut pas. Et moi, j'ai pris les choses les unes après les autres. Hein. J'ai écrit le crime d'abord, ensuite j'ai écrit la grève. Et pendant que j'étais dans la grève de mon écriture, j'ai fait ma grève, si j'ose dire. En me disant que dans le même temps, il y avait l'instruction. Qu'est-ce qui se passait ? Je ne me suis pas trop posé la question. Sinon que j'annonçais par rumeur ce... Voilà. Et j'ai commencé le procès en même temps qu'il commence. Voilà. Et j'étais dans la même impatience qu'il se déroule.
On parle des sources. Vous avez eu accès aux minutes du procès ? Comment vous avez fait ?
Non. La presse est très bien faite à l'époque. Notamment la presse régionale. Hein. Il y a le journal de l'Aveyron. Et le Républicain, l'Aveyron Républicain, qui ont couvert le procès d'une manière formidable. Et j'ai pu comparer les deux comptes rendus. Ils étaient d'une grande fidélité aux faits, inévitablement, puisque c'était les mêmes. Il n'y avait que la forme qui changeait. Donc j'ai mêlé les deux comptes rendus pour histoire d'arriver à une manière d'objectivité, hein, pas trop emprunté aux propos réactionnaires, pas trop emprunté aux propos républicains. La presse nationale, évidemment, est venue en complément. Et puis après, j'ai fait un choix personnel. Les audiences sont fidèlement retranscrites dans leur chronologie, mais j'ai coupé. J'ai été obligé de couper. Le livre, sinon, était illisible. Voilà.
D'accord.
Mais donc, pour revenir à la question des responsabilités, c'est la foule. Comment juger une foule ? Et une foule muette, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui va dénoncer un collègue. Il y en a bien un qui en prison, a eu la langue un peu trop pendue. Mais bon, comme il est aucunement crédible, parce que c'est un pauvre garçon qui a été maltraité, c'est un gavroche, quoi, presque. Que bon, voilà.
Oui, parce que vous disiez la liste.
Il n'a aucune crédibilité.
C'est vrai qu'il y a l'alcool. Quand on met un peu le nez un peu dans les biographies de certains, c'est surtout la misère.
Ouais. Oui, mais alors, ce qu'il faut préciser, c'est que même si quelque part ils manquent de dignité, s'ils en sont là, c'est qu'ils ont été broyés par le système. Vous voyez ? Parce que notamment celui qui porte le coup fatal, son nom va m'échapper, c'est pas grave, c'est le premier suspect, celui qui prendra le plus cher. Même lui, c'est une victime d'abord. Malgré son vilain caractère, il a été chassé par la compagnie, il a vécu le chômage, il a vécu la misère. Donc ce sont des gens broyés quand même.
Voit que la mine broie, c'est-à-dire, vous parliez
elle
tout à l'heure...
Elle broie tout, humains, les paysages,
exactement. Alors,
c'est un ogre.
J'en reviens un peu au court-métrage, parce que j'invite nos auditeurs à, à,